Pays de papier, une exposition à voir au musée de la photographie à Charleroi. Ce sont les livres de voyage, des livres de voyage parus entre les années 1920 et les années 70, entre donc finalement l'entre-deux-guerres et la fin des Trente
Tout
Glorieuses.
à fait.
Vous êtes David Martens, un des deux commissaires de cette exposition. Alors que nous disent ces livres de voyage sur le voyage, sur le pays, sur la destination, sur l'imaginaire du lecteur.
Il nous dit surtout que il y a un phénomène qui s'est produit au XXe siècle et qui existait déjà auparavant, mais certainement pas dans cette ampleur-là, avec cette ampleur-là, et certainement pas avec, je dirais, la même intensité, et certainement pas la même ouverture sociale et la même démocratisation, c'est l'industrie touristique. En fait, à partir de l'entre-deux-guerres, hein, on se souvient pour le domaine francophone du Front populaire et de ce qu'il a apporté au développement de l'industrie touristique, mais au-delà, tout au long du XXe siècle, il y a un développement de l'industrie touristique qui fait que les éditeurs ont été, comme ils le sont toujours, un petit peu des baromètres de l'évolution globale d'une société, d'une culture finalement et des pratiques culturelles, ce qui fait que un certain nombre d'éditeurs en France, en tout cas pour le monde francophone, en France et en Suisse romande, vont lancer des collections, des séries où ils vont rassembler des livres consacrés à des pays, à des villes, en particulier des villes et des pays très prisés par les touristes, et donc ils vont
Surtout le
contribuer.
sud, non?
Surtout le sud, oui, effectivement, surtout le sud, en tout cas le sud de l'Europe, mais pas seulement en fait, parce qu'il y avait une démarche qui consistait aussi à faire découvrir les contrées, bon, pendant la période de l'entre-deux-guerres, les contrées coloniales, et de justifier la démarche coloniale, parce que au fond, l'industrie touristique, c'est pas simplement les loisirs, c'est aussi un instrument pour asseoir une idéologie et des conceptions de la place qu'on a dans le monde et de la place qu'on assigne aux autres quand on les colonise. Et donc, voilà, il y a des livres qui montrent bien ce travail-là. Mais donc voilà, ce qu'on voit, c'est que vraiment l'entre-deux-guerres et les Trente Glorieuses, c'est une période, en tout cas surtout pour les Trente Glorieuses, parce que le véritable boom éditorial, c'est vraiment dans les Trente Glorieuses. On voit qu'il y a une efflorescence qui est liée à, je dirais, à l'essor économique qui permet le développement du tourisme et un tourisme qui est fait pour tous. Et ce sont des livres finalement qui s'adressent à peu près à tout le monde, qui sont pour la plupart d'entre eux accessibles à toutes les bourses. Ce sont des livres, on a pu se renseigner sur l'usage qui en était fait, qui étaient offerts comme livres de prix, par exemple, aux étudiants, aux élèves des écoles. Et donc, ce que ça nous apprend du XXe siècle et du rapport au voyage, c'est que on rencontre l'essor touristique au cours de cette période et que les éditeurs essayent d'en tirer parti.
Et ces livres sont écrits par des écrivains. On peut retrouver la signature de Prévert, de Giono, de Cendrars, de Roy également, de Claude Roy. On peut aussi voir que les images sont données par de grands photographes aussi, hein. Il y a le Paris des rêves d'Isis, il y a Doisneau, il y a William Klein.
Oui, alors ce qui est assez manifeste dans ce genre éditorial qu'on a appelé les portraits de pays, c'est qu'il y a une vraie disparité de place en fait entre les photographes et les écrivains. Les écrivains sont là essentiellement en fait parce qu'ils sont des noms qui portent et qui donc attirent le regard et attirent l'intérêt des lecteurs,
Ils
mais
illustrent l'image.
pas vraiment, ça dépend un petit peu des cas de figure des collections. Au fond, ce sont des commandes très souvent. Et ils se contentent d'écrire des préfaces, je dirais, dans lesquelles ils s'investissent plus ou moins. Certains auteurs, voilà, on voit bien qu'ils le font comme des commandes et ils en font des tas et des tas. D'autres le font avec un peu plus d'entrain et de brio. Giono en a fait beaucoup qui sont très intéressants.
En
Cendrars,
Provence.
et bien sûr, évidemment. Mais il y a aussi un très beau livre de Giono qui n'est pas dans l'expo, mais sur la Camargue. Très très joli livre dont le texte est très intéressant. Ou sinon Prévert, mais Prévert avait lui un autre, tout autre rapport à ces livres-là, et je dirais qu'il y mettait beaucoup du sien. Et dans son cas de figure, dans le cadre de Prévert, il y a une vraie recherche d'interaction entre le texte et l'image qui n'est pas toujours présente dans les autres cas de figure. Dans certains livres, on commande la préface à un écrivain inconnu, et puis les commentaires des images sont faits par des historiens ou par des géographes. Voilà, des textes qui sont beaucoup plus informatifs par rapport à l'image que ne le serait un texte qu'on commanderait à Giono. Dans le cas de Claude Roy, on a affaire là à un écrivain qui, lui, s'est véritablement investi dans le genre. C'est un écrivain un peu mineur par rapport aux autres grandes signatures présentes dans l'exposition, mais lui a véritablement mis en œuvre et a réalisé des livres véritablement intéressants comme La France de profil avec Paul Strand ou La Chine dans un miroir, où il a composé toute la maquette du livre lui-même parce que c'était un passionné d'image. Alors les photographes, leur position est un petit peu particulière. Il y a certains grands noms mais qui sont surtout devenus des grands noms après coup, ou grâce à ces livres-là, dans le cas d'Isis, les livres qu'il a publiés, Le Paris des rêves, c'est un véritable best-seller de l'époque, donc c'est un livre qui est resté dans les mémoires, mais pour la plupart de ces livres, soit on rassemblait des images de photographes différents, et donc finalement, je dirais qu'il n'en bénéficiait pas en termes d'aura, de prestige symbolique, mais en ce qui concerne aussi les livres signés par des photographes, ben, certains n'avaient pas encore la notoriété qu'ils avaient eue. On parle beaucoup de la banlieue de Paris de Doisneau, dont le texte est signé par Sandrard. Il faut savoir que Doisneau, à cette époque-là, on est en 49, pratiquement personne ne le connaît. C'est, je dirais, après coup que la notoriété de Doisneau a fait que ce livre-là est perçu comme un grand livre de Doisneau. Mais au départ, Doisneau, j'exagère un peu, mais n'était pratiquement rien au moment où il avait rencontré Sandrard pour faire un entretien. Sandrard s'était bien entendu avec lui, et puis ils ont fait ce livre qui est un des chefs-d'œuvre qu'on présente dans l'exposition. Et je dirais qu'on a une hypothèse quant à la disparition de cette forme éditoriale à la fin des années 70, c'est qu'à partir de ce moment-là, les photographes commencent à devenir davantage connus et les éditeurs, manifestement, n'éprouvent plus le besoin de solliciter des écrivains pour, je dirais, attirer le lecteur, ce qui explique qu'aujourd'hui, un photographe comme Depardon signe lui-même les textes de ses livres parce qu'en fait, il n'a absolument pas besoin de la notoriété de quiconque. Depardon se suffit à lui-même.
Ce sont des portraits de pays ou de villes, c'est dire qu'il y a des visages photographiques finalement qui vont incarner les pays.
Oui, absolument. Alors c'est une métaphore qui est en fait employée très très régulièrement dans ces livres. L'image du visage, au fond, c'est un modèle, le modèle du portrait, mais c'est un genre qui n'a pas été identifié jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il existe entre le guide touristique et le récit de voyage. Et les premières fois que je montrais ces livres à des amis en leur disant voilà, je travaille sur ce type de production, ils me disaient mais tu travailles sur des guides touristiques. Parce que tout simplement, il n'y a pas la catégorie. Je leur dis, mais non, pas du tout. Ce ne sont pas des guides touristiques, tout simplement parce que vous voyez bien, ce sont des grands formats. Donc on ne se balade pas avec des livres de cette taille pour aller faire des visites. Et il n'y a pas d'informations pratiques ou très très peu. En réalité, ce sont des livres ce sont des beaux livres, plus ou moins précieux selon les cas de figure, mais ce sont surtout des beaux livres qui sont là pour présenter véritablement le pays, c'est-à-dire qui assume la fonction du portrait. On n'est pas sur place et on peut quand même prendre connaissance du pays, se balader, découvrir des paysages, des territoires et des visages également, puisqu'il y a de nombreux visages, des types humains qui sont montrés, évidemment des costumes aussi, qui permettent d'identifier les lieux où on se trouve.
C'est vraiment le patrimoine qui est mis en avant.
Pour beaucoup de collections, oui, surtout celles qui ont une vocation, de l'ordre de la promotion touristique. Hein, les collections d'Artaud, par exemple, la collection, une des plus anciennes, c'est Des Beaux Pays. Les éditions Sun aussi ont fait beaucoup de livres véritablement à vocation touristique. Peut-être la collection la plus intéressante du point de vue touristique et qui, encore une fois, là aussi est axée sur le volet patrimonial, c'est on connaît tous les guides bleus. On n'en a pas tous lu, mais on sait tout ce que les guides bleus, ça existe, ce sont des guides touristiques. Eh bien, les éditions Hachette avaient une collection, je dirais, cousine qui s'appelait Les Albums des Guides Bleus et qui est une collection très formatée également, mais qui n'est pas de guide touristique, qui est vraiment une collection de portraits de pays, de format moyen, avec beaucoup de photographies et des préfaces faites par des grands écrivains. Mais toutes les collections ne sont pas patrimoniales, puisqu'on a des collections à vocation beaucoup plus esthétique, comme les volumes qui sont publiés à la Guilde du Livre à Lausanne, où là, le patrimoine est mis en avant, mais on sent bien qu'il y a une recherche esthétique et de la part des écrivains et de la part des photographes. Et puis il y a des collections, je dirais, beaucoup plus politisées d'une certaine façon. Je pense en particulier à la collection de petits formats du Seuil qui s'appelle Petite Planète et qui a été initiée et dirigée au début par Chris Marker, où là, précisément, tout le côté assez stéréotypé par ailleurs de certaines autres collections est totalement tourné en dérision, avec un engagement politique et une grande désinvolture et beaucoup d'ironie, ce qui rend cette collection, pour moi, de toutes les collections, probablement la plus intéressante et certainement la plus hilarante aujourd'hui.
Il déconstruit le livre de voyage.
Pardon ?
Il déconstruit le livre de voyage.
C'est un livre de voyage, c'est un livre de connaissance des pays en question, mais il le fait, je dirais, à la façon de Chris Marker, c'est-à-dire de façon à la fois très poétique et très décalée. Je pense que les personnes qui visiteront l'exposition s'en rendront compte. Il y a beaucoup de pages extrêmement drôles, intéressantes et poétiques dans cette collection-là et dans d'autres, mais cette collection-là est particulièrement savoureuse.
Merci.
Merci à vous.